Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Au menu de l'émission de ce soir, un gros plan sur la puissance russe qui s'exerce sur le dossier syrien. On l'a encore constaté ce week-end à Lausanne, puis à Londres, accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. À Alep, la Russie de Vladimir Poutine tient tête à une communauté internationale qui se contente pour l'instant de menaces de sanctions. La Russie assume sa réelle politique. Elle bombarde en Syrie depuis un an maintenant au nom de la lutte antiterroriste. On a aussi de son alliance avec Damas. Épreuve supplémentaire de sa puissance, c'est son armée qui annonce ce soir une pause humanitaire de 8 heures. Ce sera jeudi à Alep. Alors Vladimir Poutine est-il le maître du jeu? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Françoise Dossé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de la Russie, auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier, Être opposant dans la Russie de Vladimir Poutine, est paru. C'était en début d'année 2016 aux éditions du Bord de l'eau. Deuxième invité, Julien Nocetti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'IFRI et vous consacrez vos recherches à la politique de la Russie au Moyen-Orient. Alors, Julien Nocetti, considérez-vous que Vladimir Poutine est le maître du jeu aujourd'hui en Syrie?
Ça y ressemble beaucoup. En tout cas, il est d'abord le maître des horloges. Et ce qui est frappant de constater, c'est que le temps de Moscou n'est pas celui de Washington. Et ce que Moscou a cherché à faire depuis l'été en particulier, c'est de moduler toutes ces initiatives diplomatiques avec le terrain militaire. On a vu en septembre que l'obtention du cessez-le-feu, après des négociations assez longues, à Alep, a été rompu très très vite au bout d'une semaine et a été suivi de bombardements avec le régime syrien sur Alep. Donc il y a au fond un jeu très 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 articulé entre ce qu'ils concèdent sur le terrain diplomatique et ce qu'ils font en réalité au plan militaire.
Et alors, est-ce que c'est justement aussi une illustration de ce que vous nous dites, que ce qui s'est passé ce week-end, donc deux jours, deux réunions internationales sur le dossier syrien, en gros aucun résultat, et puis aujourd'hui une annonce de l'armée russe d'un cessez-le-feu à venir de 8h à Alep, vous y voyez la même articulation?
Alors, depuis le départ, en fait, depuis mars 2011, depuis le début de la crise syrienne, toute la rhétorique de Moscou a consisté à articuler une espèce de posture ferme avec une rhétorique plus conciliante. Et tout le jeu de Moscou a été vraiment de basculer entre ces deux positions, de concéder et ensuite de récupérer ce qu'on lui a pris, entre guillemets. Et on le voit parfaitement aujourd'hui avec cet accord embryonnaire, hein, encore une fois, hein, puisque c'est rien de confirmé.
Oui, c'est juste une annonce qui a été donnée en début de soirée. Alors, avant de donner la parole à Françoise Dossé, qui est plutôt spécialiste de la politique intérieure de la Russie, pour vous, Julien Nocetti, l'intervention russe débutée il y a un an, fin septembre 2015, elle a totalement redistribué les cartes sur le terrain syrien?
Complètement. En fait, c'était aussi l'objectif de la Russie. Et aujourd'hui, un an après, la Russie a la maîtrise du ciel, puisqu'en début d'année, les Russes ont déployé un système antimissile S-400 près de l'attaqué, qui a pour conséquence de verrouiller le ciel proche-oriental, donc qui dépasse, hein, largement le cadre syrien, hein, le territoire de la Syrie actuelle, pour déborder sur la Turquie, sur Israël, le Liban. Donc, si vous voulez, avant chaque initiative occidentale, il faut consultation avec l'état-major russe. Donc ça confère à la Russie un rôle militaire absolument primordial.
Incontournable. Françoise Dossé, donc on vient de décrire une puissance à l'international de la Russie. Est-ce que Vladimir Poutine a des faiblesses en interne? Est-ce qu'il pourrait, sur le dossier syrien, être inquiété par une opposition, par exemple?
Alors sur le dossier syrien, l'opposition est quasiment absente en fait en Russie même, c'est-à-dire qu'il y a très peu de prises de parole contre l'intervention russe en Syrie, tout simplement parce que l'opposition aussi est très très affaiblie, hein, et les dernières élections qui se sont déroulées mi-septembre ont montré que cette opposition était muselée et n'avait plus les moyens en fait de s'exprimer, notamment sur les questions internationales. Les dernières élections ont donné les deux tiers des voix, des sièges à la Douma au parti du président Russie Unie. Et donc, voilà, aucune parole alternative pour l'instant n'est possible depuis la Russie. Et je dirais qu'en plus, l'intervention militaire en Syrie suscite soit le désintérêt, soit relativement peu d'intérêt dans la population russe, et d'autant moins que les qu'il n'y a pas de jeunes soldats ou de jeunes appelés envoyés servir en Syrie, ce qui fait une différence par exemple avec ce qui se passait en Tchétchénie ou en Afghanistan il y a encore plus longtemps, où là les comités de mère de soldats s'étaient mobilisés parce qu'il y avait des jeunes qui mouraient sur le front. Or là, ce n'est pas le cas, donc c'est vrai que ça affaiblit peut-être encore un peu plus.
Donc toute puissance sur le plan international et toute puissance aussi sur le plan interne pour vous?
Alors, toute puissance, le mot est probablement beaucoup trop fort. C'est-à-dire que Vladimir Poutine s'appuie sur son parti, Russie Unie, sur une partie de l'électorat, des citoyens russes. Mais si on regarde à nouveau les dernières élections, c'est 30 à 40% de la population qui a participé au scrutin, pas plus. Donc la question, c'est que pensent les 50
ceux qu'on n'entend pas, ceux qui ne s'expriment pas.
Qui ont pu s'exprimer en 2011-2012, mais qu'on n'entend pas aujourd'hui.
Oui, parce qu'il y a eu une vague d'opposition. On sait qu'il y a des oppositions. Il y en a eu, en tout cas, il y a quelques années, contre Vladimir Poutine. Vous vouliez réagir, Julien Nocetti?
J'ajouterais un petit élément au plan intérieur. C'est que jusqu'à présent, il semble que le facteur musulman n'ait joué aucun rôle depuis l'intervention russe en Syrie. Autrement dit, on pouvait craindre, ça a été exprimé en Russie, comme en Occident, que le fait d'intervenir en armes dans un pays musulman pouvait faire se mobiliser les minorités musulmanes de Russie contre des autorités qui s'en prendraient voilà, un pays islamique. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Ça a été aidé aussi par une forme de verrouillage du Kremlin, des institutions de l'islam russe hein, qui ont suivi ça de très très près.
Alors, Françoise Dosset, je voulais aussi vous faire réagir à une interview qui a été donnée dans Le Monde de Marie Mindras, qui est politologue au CNRS et qui, elle, analyse aussi le durcissement du régime russe sur le terrain syrien par une faiblesse en interne. Elle parle d'une économie qui va droit dans le mur avec un PIB inférieur à celui de l'Italie. C'est vrai qu'il faut rappeler ces chiffres, hein, ça paraît étonnant. Une démographie en chute libre et puis une société désemparée. Alors, est-ce que vous souscrivez à cette analyse ou pas du tout, vu ce que vous nous avez dit plus tôt?
Oui, alors, je mettrai des bémols à cette analyse. Certes, effectivement, la situation en Russie présente des signes de faiblesse, notamment l'économie russe est une économie de la rente hein, fondée sur le pétrole et donc très dépendante des cours internationaux du pétrole, ce qui lui a causé des problèmes ces dernières années. En même temps, quand on regarde les sondages d'opinion et puis quand on se promène dans les rues de Moscou, de Saint-Pétersbourg, enfin en Russie, on voit aussi une population assez mobilisée tout de même derrière son gouvernement, qui a développé des programmes d'éducation patriotique de la population depuis le début des années 2000, qui portent tout de même leurs fruits, et donc et avec aussi un très très fort anti-américanisme dans la société russe, qui s'est considérablement...
Qui est très structurant de la politique internationale russe.
Hein. Tout à fait. Qui s'est considérablement accentué avec les événements d'Ukraine et avec la Crimée. Et qui se maintient aujourd'hui, c'est-à-dire les sondages du Centre Levada, par exemple, montrent des taux d'impopularité des États-Unis de l'ordre de 80%. Enfin voilà, c'est très très fort.
Pour vous, Julien Nocetti, l'impact de cette faiblesse interne qui structurerait la politique internationale russe, c'est une analyse qui vous intéresse? Vous la trouvez erronée, juste?
Tout à fait juste en fait. Hein. Toute la politique de la Russie au fond, hein, c'est celle d'une puissance, d'une puissance pauvre au fond. Hein. C'est le choix de.
Donc vous êtes d'accord avec Marie Mindras?
C'est de montrer sa puissance brute, sa puissance militaire. Hein. Et toute l'intervention en Syrie a été de montrer que le facteur militaire n'est pas obsolète en relation internationale. Et c'est au fond, c'est en creux un discours adressé à l'Occident qui se démilitarise. Donc en parallèle, la Russie, elle, se remilitarise et montre ses muscles dans une région, le Moyen-Orient, où l'Occident s'est retiré et n'est pas capable, selon Moscou, hein, de résoudre les crises.
Alors, la dureté du régime russe aujourd'hui en Syrie est motivée officiellement par la nécessité de l'antiterrorisme. Là-dessus, Florence Dosset, je me suis trompée dans mes notes. Est-ce que ces motifs antiterroristes sont réels ou est-ce qu'ils font partie d'une stratégie aussi de communication du régime pour justifier l'intervention?
Alors, je pense qu'il y a une part de stratégie de communication, mais je pense qu'il y a aussi il faut prendre ces arguments au sérieux. C'est un débat qu'on avait tout à l'heure avec Julien Nocetti, de savoir si la question caucasienne, notamment, jouait un rôle déterminant dans l'intervention russe en Syrie. Je rappelle simplement qu'un certain nombre de combattants d'origine tchétchène se battent aux côtés de l'État islamique, d'après les informations dont on dispose. Et le gouvernement russe, d'une certaine façon, justifie sa présence en Syrie aussi par la nécessité d'éradiquer ces formes de radicalisme religieux qui pourraient toucher le territoire russe et caucasien. Donc il y a cet argument du radicalisme islamiste en Tchétchénie, il est très utilisé par le pouvoir.
Et il est valable à votre avis ?
À mon avis, il faut le prendre au sérieux. C'est un débat qu'on peut avoir, mais c'est vrai quand on voit la façon dont l'aviation russe bombarde Alep. Bon, le parallèle est peut-être trop facile, mais dire qu'ils interviennent à Alep comme ils sont intervenus à Grozny avec la même violence, c'est vrai qu'on a le sentiment un petit peu d'une forme de combat qui se déplace d'un lieu à l'autre.
Julien Nocetti, sur cette thématique, qu'est-ce qu'on sait des terroristes caucasiens aujourd'hui présents en Syrie et est-ce qu'ils veulent rentrer en Russie pour commettre des attentats?
Alors justement, un début de guerre affiché par le Kremlin était de fixer tous ces combattants caucasiens sur le théâtre syro-irakien et les éliminer. Et c'est ce qui a été annoncé par le ministère de la Défense en mars dernier quand la Russie a annoncé le retrait partiel de ses troupes de Syrie. Alors on sait relativement peu de choses, mis à part qu'il y a un fort contingent tchétchène et de pays d'Asie centrale. Il y a plusieurs milliers de combattants originaires d'Ouzbékistan et Tadjikistan notamment, avec des défections notamment de hauts responsables de ces pays vers le théâtre syrien. Et ça préoccupe évidemment beaucoup Moscou, qui au-delà du Proche-Orient veut aussi sécuriser son flanc centra-asiatique et caucasien. Donc il y a aussi des considérations sécuritaires très présentes sur l'étranger proche de la Russie.
Et alors, il y a aussi un autre aspect que je voulais aborder avec vous, Julien Nocetti. On en a parlé juste avant cette émission. C'est pour vous, ce qui explique aussi la surpuissance de la Russie aujourd'hui, c'est en fait ce qu'il se passe ailleurs, aux États-Unis, en France, des élections qui se préparent. En gros, si la Russie est forte, c'est que les autres sont faibles ou dans des périodes délicates en ce moment. C'est votre analyse ?
Une partie du jeu de Moscou est de montrer que l'Occident, donc États-Unis et Europe principalement, sont faibles, divisés, indécis. Donc là, on est davantage dans une composante guerre information. Et ça, les Russes, depuis la Crimée et l'Ukraine, maîtrisent relativement bien ce jeu informationnel. Et on le voit très très bien aux États-Unis actuellement avec la campagne présidentielle américaine où Moscou cherche véritablement à montrer que le système américain, système démocratique, valeurs libérales, etc., est dépassé, ne fonctionne pas et illégitime au fond. Donc une candidature comme Trump favorise complètement ce discours et vise à montrer au fond que ça ne marche pas. Et qu'au contraire, il faut se tourner vers une Russie qui, elle, impose un cadre moral. Voilà, donc c'est tout un discours.
Florence Dossier, sur ce point-là, pour vous, ça s'explique aussi par ce calendrier électoral chez nous?
Oui,
et
c'est-à-dire
aux États-Unis.
Que probablement le régime de Vladimir Poutine est effectivement dans une autre temporalité par rapport à ce qui se passe et en France et aux États-Unis actuellement. Et ce qu'il présente comme une faiblesse, c'est en fait le jeu démocratique tel qu'il se déroule en Occident et aux États-Unis. Donc voilà, pour eux, la faiblesse, c'est la démocratie, tout simplement. Donc c'est vrai que face à ça, un système où effectivement les élections sont plus ou moins organisées d'avance et où il n'y a aucune incertitude sur l'avenir du chef de l'État, c'est présenté comme une force, mais c'est d'abord et avant tout une absence de démocratie. Je rappelle simplement que Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 16 ans, qu'il a encore la perspective de rester à tête de la Russie jusqu'en 2024. Donc c'est vrai qu'il se situe dans un autre rapport au temps par rapport à des dirigeants occidentaux qui, eux, doivent faire face à des échéances électorales.
Mais est-ce que ça veut dire qu'une fois que les élections seront passées, aux États-Unis comme en France, la donne en Syrie va changer puisqu'ils auront, Vladimir Poutine aura un interlocuteur?
Alors, l'objectif de la Russie est justement de prendre l'ascendant sur les États-Unis avant l'élection, puisqu'en fait les Russes au fond sont convaincus que Trump ne passera pas. C'est pas forcément leur souhait d'ailleurs. Et donc ils sont persuadés que Hillary Clinton passera. Et une présidence Clinton serait très défavorable aux intérêts russes. Donc tout l'objectif de la Russie, notamment sur Alep, est de prendre l'ascendant et de faire en sorte que le régime Assad soit en position de force dans les négociations à venir. Et tout ça avant une présidence Clinton.
Vous êtes d'accord, Florence Dossier?
Oui, tout à fait. Alors je pense qu'il y a une dimension intéressante qui est aussi l'intérêt que porte la Russie à un certain nombre de forces ou de partis conservateurs, traditionalistes en Europe, alors aux États-Unis aussi.
On connaît par exemple les liens entre la Russie et le Front National.
Voilà,
en
tout
France,
à fait. Donc c'est exactement ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté manifeste de tisser des liens avec certaines forces politiques qui seraient plus favorables aux intérêts russes ou qui seraient sur des projets politique proche.
Notre priorité n'est pas de rentrer dans un cycle de sanctions pour des sanctions. Notre priorité et notre détermination, c'est de convaincre, encore une fois, pour l'arrêt des bombardements à Alep.
Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères français, c'était il y a quelques jours, qui dit donc non aux sanctions. Aujourd'hui, Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, dit non elle aussi. Julien Dossetti, est-ce qu'à votre avis, des sanctions internationales pourraient être efficaces aujourd'hui contre la Russie sur le dossier syrien ?
Alors encore une fois, ça c'est un aspect qui est discuté évidemment dans les chancelleries occidentales. Mais je pense qu'à Moscou, au fond, on s'en préoccupe assez peu. Voilà, puisque depuis 2014, il y a une forme d'habitude, voire de lassitude au Kremlin sur ces différents volets de sanctions adoptés, et que là, actuellement, Moscou est davantage dans une optique d'autosuffisance dans différents domaines, à la fois agricole, technologique, etc. Et il y a une forme de dépassement de toutes ces sanctions, et voilà.
Florence Dossé, pour vous aussi, l'exemple ukrainien, par exemple, puisqu'il y a des sanctions contre la Russie, montre l'improductivité du dispositif.
Voilà, c'est-à-dire que les sanctions effectivement adoptées contre la Russie au moment de la crise en Ukraine n'ont pas modifié la position de la Russie en Ukraine, n'ont pas remis en cause l'annexion de la Crimée, ni les événements du Donbass, et au contraire ont tendance à renforcer une forme de patriotisme économique, je dirais, dans le pays, en valorisant la production locale, la production, notamment la production agricole. Et donc ça voilà, on assiste plutôt à une mobilisation de la population et à un renforcement d'une position anti-occidentale, je dirais, au regard des sanctions, plutôt qu'à un effet politique direct et observable.
Mais alors, si je vous entends bien ici, je vous ai bien compris depuis le début de l'émission, vous nous dites oui, Poutine est le maître du jeu, la Russie est la maîtresse du jeu aujourd'hui sur le dossier syrien, et non, il n'y a rien à faire, c'est ça, Florence Dossé, pour vous ?
Alors il n'y a rien à faire, je ne suis pas diplomate, il me semble qu'il faut être à l'écoute surtout de la société russe, c'est-à-dire que c'est une société qui est vivante, qui est ouverte sur l'international, qui est très connectée, et je pense
mais qui reste silencieuse, c'est
alors
ce que vous
qui reste silencieuse
aussi.
Pour l'instant, qui ne l'a pas toujours été, qui était qui a pris la parole justement en 2011-2012 pour dénoncer la corruption, les dérives autoritaires aussi du régime au moment des élections. Et il me semble que le dialogue doit être vraiment maintenu avec cette
Donc l'une des pistes serait de raviver la société civile pour qu'elle ait un impact.
Il me semble.
Et vous, Julien Nocetti, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des faiblesses russes là aujourd'hui sur lesquelles on pourrait jouer ?
Il faut être conscient, à mon sens, hein, sur les réels motifs de la Russie, évidemment, et accroître une capacité d'analyse sur la Russie qui aujourd'hui fait un peu défaut à la fois en France et en Occident, puisque d'autres régions ont été privilégiées les années précédentes, mais et notamment au Moyen-Orient. En fait, au fond, la Russie n'a aucun projet ni modèle politique pour cette région. Hein. Il faut avoir ça à l'esprit. C'est une politique qui est guidée par des seuls intérêts nationaux, qui sont à la fois régionaux et par extension internationaux.
Et on dit aussi beaucoup des intérêts à court terme, mais pas forcément de stratégie à long terme.
Des intérêts avant tout tactiques, au fond. Il n'y a pas de réelle stratégie de la part de Poutine. Hein. C'est assez ad hoc. Une politique qui marche en fonction des intérêts de court terme du Kremlin. Et c'est là une faiblesse, à mon sens, de la politique de Poutine.
Et est-ce que, par exemple, alors il nous reste plus qu'une minute, mais une décision comme celle de François Hollande, un positionnement sur le non, je ne veux pas vraiment recevoir Vladimir Poutine, c'était pas exactement ça, mais bon, est-ce que ça peut avoir du poids, ou est-ce qu'à votre avis c'est complètement non opérant, Florence Dossé?
Alors, je pense que c'est tout de même important, enfin, parce que Vladimir Poutine est quand même attaché aussi au rayonnement de son pays sur la scène internationale et en Europe, c'est-à-dire qu'il la Russie se présente à la fois comme un pays à cheval sur l'Asie et sur l'Europe, mais je pense que son intérêt pour l'Europe est manifeste, et donc ce refus de
donc la société civile et peut-être aussi des positions fortes de certains politiques, Julien Nocetti.
Bien sûr, évidemment, des positions fortes. Après, la manière dont Paris a procédé peut être discutée, évidemment. Je ne suis pas sûr que montrer ses états d'âme en direct à la télévision soit le meilleur moyen de convaincre Poutine de la justesse de ses positions. Voilà.
Ouais, voilà. Bon, on va terminer sur ce désaccord. Merci beaucoup à vous deux. Merci donc à Françoise Dossé, directrice du Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens, à Julien Nocetti, chercheur à l'IFRI. Merci également à Florence Ponce, à Valentin Vanner. On se retrouve mercredi pour un nouveau débat. Dans quelques secondes, ce sera un nouveau journal sur RFI.